Daniel, bonjour, ainsi qu'à tous ceux de l'émission. Je vous appelle car il est 1h10 du matin, et je vous appelle car en tant qu'ancien exilé politique en France, je ne peux pas cacher ma joie face à la victoire qui vient de remporter notre camarade Michel Bachelet. Quelle belle revanche pour nous tous, les anciens exilés victimes de la dictature. Une femme présidente d'un pays macho, comme on dit ici, socialiste, médecin. Eh bien, je pense que on ne pouvait pas rêver un des plus belles revanches. Dernier petit mot. Un pays des machos a eu le courage d'élire une femme présidente. En France, nous faisons en parler. Merci et au revoir. C'était Edmundo d'Auxerre.
Renaud de Paris, je téléphonais pour faire état de mon indignation, sinon de mon dégoût, à la suite du décès d'un jeune garçon lors d'une étape du Paris-Dakar. Et c'est vrai que cette course qui n'est ni du sport ni un exploit, c'est une véritable honte pour la France qui laisse des beaufs en 4x4 tuer des enfants dans des villages. Est-ce qu'il existe un collectif qui pourrait éventuellement attaquer les organisateurs de cette course, qui ne manqueront pas de rétribuer la famille de l'enfant tué? Par ailleurs, est-ce qu'il n'est pas envisageable qu'une collecte soit faite pour assurer une défense digne aux parents de cet enfant tué? Au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour auditeur. Je viens piquer une gueulante, je suis une auditrice fidèle de France Inter, j'écoute les actualités. On est samedi, il est 18h et j'apprends que le Paris-Dakar est endeuillé une nouvelle fois. Or, le Paris-Dakar, pour moi, n'est pas endeuillé. Le Paris-Dakar a tué. Ça fait le deuxième gamin qu'il tue. Et en 2 jours. Alors, je ne sais pas, je connais rien, ça ne m'intéresse pas. C'est du sport. Le sport, c'est très respectable. Mais quand on regarde quelques images, on voit qu'il y a des marques de pub partout. C'est une affaire de fric. Et c'est une affaire de fric qui a tué des mômes. Donc, qui a tué un sportif, c'est très triste, mais qui a tué des mômes qui passaient par là, qui n'avaient rien à faire avec le fric. Et on nous dit aux actualités de France Inter que le Paris-Dakar est endeuillé. Bon, je suis dans une colère folle, dans une rage folle. Déjà, les actualités m'énervent. On est obligé quand même de se tenir au courant, mais quand on voit que tuer, c'est maintenant être endeuillé, quand un assassin, quand quelqu'un tue, on dit qu'il est endeuillé, là, je comprends plus rien. Le Paris-Dakar a tué, le Paris-Dakar assassine, le Paris-Dakar n'est pas endeuillé. Voilà, au revoir.
Je suis Mohamed El Garni. Si je vous téléphone aujourd'hui, c'est parce que j'ai entendu une information à la radio de Paris-Dakar qui a tué encore une fois un petit garçon, quelque part dans un petit village en Afrique. Alors, il se trouve que il y a quelques années, ils ont tué un petit garçon dans mon petit village. Un village complètement perdu, inconnu, qui se trouve entre Nador et Rachidia. Son père, un ami d'enfance, et toute sa famille ne se sont jamais remis. Et vraiment, jamais. Et personne n'a jamais donné, ne leur a jamais donné d'informations ou quoi que ce soit des conséquences de cet accident. Alors, vraiment, je fais appel à quelqu'un s'il peut m'aider, au moins, à en parler. Ça serait vraiment, vraiment génial. Parce que ce soir, et à chaque année, qu'il y a Paris-Dakar, je pense à ce petit garçon mort dans mon village. C'est en distribuant des gadgets, ils assassinent des enfants. Si c'est ça le développement, ou si c'est ça l'aide qu'ils peuvent apporter à l'Afrique, moi je dis qu'on n'en veut pas de ces gadgets. On n'en veut pas des gadgets qui jettent aux enfants. Et les enfants se jettent sans faire attention parce qu'ils ne sont pas habitués à ces courses. Mon numéro de téléphone c'est 06 80 42 61 56.
Voilà, il a laissé son numéro de téléphone, je le répète, 06 80 42 61 56. Il s'appelle Mohamed, si j'ai bien compris, El Garni. Et il est chauffeur de taxi, Mohamed, on l'a rappelé, pour lui dire, est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes bien d'accord pour qu'on donne votre numéro de téléphone à l'antenne? Oui, allez-y. Donc, 06 80 42 61 56, pour parler avec lui, vous avez compris, de ce qui s'est passé dans son village, ce gamin qui a été tué. comme le, comme ceux qui viennent d'être tués par les super beaufs du Dakar. Il faut absolument, évidemment, arrêter cette épreuve qui n'en est pas une, enfin qu'une épreuve pour les gens et pour les enfants, cette épreuve absolument imbécile. Voilà, c'était les messages parmi d'autres que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse Sigisbio, 01 56 40 37 37. Aujourd'hui on continue notre balade à Mayotte et dans les Comores, et là on va voir on va voir que peut-être le diable se cache dans les détails. J'ai dit ça l'autre jour par téléphone alors qu'on était aux Comores, et puis j'ai dit mais de qui est la phrase le diable se cache dans les détails? Pas de réponse de votre part, ce qui m'étonne beaucoup, parce qu'il y a toujours l'auditeur expert et érudit qui dit « Ah, c'est de un tel ou un tel ». Là, je sais pas, en tous les cas, ça va être le titre de notre balade d'aujourd'hui, « Le diable se cache dans les détails ». Et puis, quoi d'autre? Eh bien, un repère de la basse si j'y suis à Nîmes, le Haddock, qui se sont réunis vendredi pour la première fois. Ils étaient ravis, ils étaient 70 d'un seul coup comme ça. Voilà, ils étaient très contents. Les échos qu'on a eus, c'est ça. Et donc, le patron est un petit peu débordé. Donc, désormais, à Nîmes, le repère se tiendra le premier jeudi de chaque mois à 19h, jeudi au lieu de vendredi, premier jeudi de chaque mois à 19h pour Nîmes. Et puis un autre message, il y a un bistrot, un repère qui est en préparation à 7, que ceux qui ont laissé un message nous rappellent sur le répondeur de la basse au 01 56 40 37 37, pour qu'on discute un petit peu. On part donc Mayotte, les Comores, après les messages que voici, dont celui-ci qui est assez éclairant.
Quelques petites précisions après avoir passé 9 ans à Mayotte, plus quelques petits séjours dans les autres îles des Comores. Alors d'abord, le rôle de Bob Denard, ses mercenaires, tacitement mandatés par la France pour bloquer tout processus de développement politico-économique viable et durable. Donc aujourd'hui, c'est une petite clique politique qui est installée, quoi, avec villas luxueuses, études dans les écoles privées pour les rejetons. Et puis, misère et zéro avenir pour la majorité des Comoriens, qui effectivement ne sont rien pour ceux qui paradent dans leur 4x4, c'est vraiment écœurant. D'autant que la France et puis les Arabes envoient de l'argent, mais ce qu'il en est fait, ça je sais pas, gros mystère. En ce qui concerne Mayotte, eh bien, je dois encore dire bravo à la France, tous ces énarques, tous ces décideurs qui ne savent que cloner les dom-toms entre eux, sans respecter ni la culture, ni la singularité de ces derniers. Entre 96 et 2005, j'ai vu Mayotte se développer économiquement, culturellement. C'est comme ça qu'on dit, quand les Maorais hypothèquent ou vendent leur terrain pour acheter la dernière 407 ou le plus gros 4x4, indispensable le gros 4x4, pour les 8 km de route de petite terre, des programmes de RFO sirupeux avec Dallas, Feu de l'amour, Marima, etc. Plus, bien sûr, Canal Satellite, pour tous, alors que France Inter, moi j'étais obligé de monter sur mon toit là pour le capter en plein milieu de l'île, alors que dans le sud on capte pas France Inter. Donc je speed parce qu'il y a que 2 minutes. Donc l'usine Coca qui rend tout le monde obèse, des plastiques qu'on importe et qu'on sait pas recycler, qui sont brûlés dans des charges à ciel ouvert, super, cancérigène à fond. Je parle pas des projets pharaoniques là qui vont sortir Mayotte et l'ouvrir au tourisme avec des hôtels de fous dans le nord, etc. Et qui vont défigurer tous ces petits lieux encore magiques et atemporels. Comme c'était le cas en Martinique, Guadeloupe, c'est lamentable. Donc c'est vrai que j'ai quitté Mayotte au terme de ces quelques 9 années passées, j'ai quitté Mayotte un peu amer, de l'avoir se transformer comme ça en département classique, quoi. Et j'espère que ces jeunes Maorais qui sont partis faire leurs études en France, reviendront et qu'ils auront à cœur d'œuvrer pour que leur île ne devienne pas l'île au parpaing, et qu'elle conserve son charme, ses atours, et qui n'hésitent pas à remplacer tous ces maires, UMP, conseillers généraux, etc., qui aussi ont employé des clandestins pour construire leur maison, qui aussi ont employé des clandestins dans leur champ. Quand j'entends Ali Souf, ça me fait un peu rire, le maire de Tsingoni. Donc merci à toi, Daniel. Continue à faire ton boulot de vrai journaliste. Car des comme toi, il n'y en a plus beaucoup. Et un bonjour à tous mes potes maorais, comoriens, Salimou, Omar Bongo, etc. Et les quelques mzongous que j'apprécie.
Comme vous l'avez tous entendu dans l'actualité, Monsieur Villepin en a décidé d'en finir avec le chômage, et donc tant mieux. Et donc pour faire hommage à ce mal passé, ce soir au cinéma Diagonal de Montpellier, Attaque présente un film qui s'appelle Le chômage a une histoire, de Gilles Balbastre, en présence du réalisateur et d'Alain Marchand du conseil scientifique d'Attaque. Et aussi, à côté de Montpellier, avec la pied, il y a Raoul Marc Génard qui va nous parler de la directive de Bolkestein qui apparemment et oublié. Voilà, venez nombreux, au revoir.
Toi, tu voulais partir aujourd'hui là?
Asiziti koziri para maore oho.
Mayotte, on souffre beaucoup parce que là-bas, on nous exploite, on nous insulte pour ne rien gagner. C'est-à-dire que nous, on choisit y aller parce que malgré les problèmes qu'il y a à Mayotte, mais c'est mieux que chez nous. Où c'est la misère totale.
D'accord. Mais toi, tu es déjà allé là-bas?
J'ai fait beaucoup, beaucoup. Je suis allé au moins 40 fois à Mayotte.
40 fois?
40 fois.
Mais qu'est-ce que tu fais comme business alors?
Je fais manœuvre, je ramasse du sable pour la construction. Je fais un peu de tout. Avec la misère et la pauvreté, de toute façon, tu ne réfléchis pas. Dès que tu sauras que là, il y a quelque chose, tu vas y aller, quoi.
Même si mais j'ai pas compris. Pourquoi il voulait pas nous parler tout à l'heure, là, qu'il partait?
Exactement, Karakara joue un problème, il y a.
Nous, normalement, un blanc, c'est un suspect parce que c'est les blancs qui sont à Mayotte. Et qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas venu pour ça aussi, pour nous dénoncer après ou téléphoner, dire aux autres là-bas que voilà, ils arrivent, il faut les attraper.
Mais il y a déjà des blancs qui sont venus sur la plage ici?
Je n'ai jamais vu justement un blanc ici quand les visiteurs parlent, parce qu'on fait le tout pour les éviter justement.
Et c'est ça, c'est la première fois que vous voyez des blancs ici?
Oui.
C'est la première fois qu'on voit.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base J'y suis, avec Guy Van Til, Mayotte, un confetti explosif.
Nous faire culer pour la sécurité. Première arrivée du Maria Galanta, le bateau qui dorénavant va faire la navette entre Anjouan et Mayotte et qui donc a prévu de faire son fret en clandestin, en reconduite à la frontière.
C'est-à-dire que le clandestin est une ressource. Le clandestin, ça rapporte, c'est une activité, c'est un secteur économique comme un autre. Ah, mais c'est une réception officielle, hein. Il y a toute la bonne société, il y a les officiels, il y a les forces de police, dans l'armée, les journalistes, etc. Tout le monde est là, regardez. Tout le monde est là.
Et il y a même, pour s'occuper de la sécurité générale du port, notre copain, le passeur.
Salut!
Devinette, quelle différence y a-t-il entre le clandestin, le Mitterrand et le cochon? Eh ben, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Tout est bon. Dans le Mitterrand, tout est bon. On peut tout exploiter. Les poils, la peau, la viande, les os, tout ce qu'on veut. Tout est bon. On peut le faire faire sécher, le faire en saucisse, le faire en jambon. Tout est bon. En brosse, on peut s'en faire tout ce qu'on veut. Le cochon, ben c'est pareil, puisque c'est ça. Et puis, le clandestin, c'est exactement la même chose. Là, tout est bon dans le clandestin. Ça rapporte de tous les côtés. Et là, on est à Anjouan, l'une des îles des Comores. On est à Moutsamoudou, capitale d'Anjouan. Et on assiste en grande pompe à l'inauguration de la ligne Mayotte-Anjouan.
la ligne maritime, c'est le bateau, un nouveau bateau, le Maria Galanta, qui va désormais assurer une liaison entre Anjouan et entre Mayotte et Anjouan et retour. Alors, ben, c'est très bien, on se dit, ah là, voilà, ça c'est bien. Au moins, ça crée une liaison, ça crée un lien, et nous sommes pour les liens et les liaisons. Sauf qu'on va voir que ce bateau ne va pas servir qu'à ça, ou du moins, il va servir à reconduire les clandestins, les illégaux qui, en nombre et en masse, se menacent Mayotte, la française. C'est notre thème du jour. Mais il y a un personnage qui est là, et qui est Jimmy. Vous vous souvenez de Jimmy? Jimmy Messi, le passeur. Notre ami Jimmy, le passeur, qui nous a raconté comment, depuis des années, lui qui est illettré, a trouvé une ressource dans le clandestin, qui est de passer ces clandestins à bord de ces fragiles embarcations qu'on appelle des Kwasa-Kwasa. Eh bien, là, aujourd'hui... Jimmy ayant deux casquettes, là, il a sa casquette sécurité. C'est-à-dire que pendant l'inauguration de Maria Galanta, eh bien, il s'occupe de la sécurité. Et puis, ce soir ou demain, eh bien, il remettra sa casquette de passeur, qui prouve bien que dans le clandestin, eh bien, il y a ces deux aspects. Mais, ce que fait Jimmy, au fond, c'est ce qu'on fait de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on exploite le clandestin, le clandestin, l'illégal, eh bien, c'est la source numéro un, c'est la main d'œuvre à Mayotte, c'est le Comorien qui fait tout le boulot. Absolument tout le boulot. Et puis il est intéressant aussi sur le plan électoral, sur le plan du marketing, sur le plan des voix, pour ramasser des voix, il est quand même très intéressant. Et puis à la fois on en a besoin pour le boulot, et on a besoin pour le renvoyer. Tout ça c'est rentable. On va faire ce parcours avec la police de l'air et des frontières aussi. Hein. On va voir que là aussi, il y a une activité. C'est tout un secteur économique. Et puis, on va aller avec ceux qui quittent leur île pour essayer d'aller vers cet Eldorado qu'est Mayotte et qu'est donc la France. Alors, ces histoires sont lointaines. La plupart d'entre nous ici en métropole ignorent jusqu'à la situation de Mayotte sur une map monde. Sauf que, je le disais en commençant, le diable se cache dans les détails. On l'a vu récemment avec un certain ministre de l'Intérieur qui n'était pas le bienvenu aux Antilles, ces Antillais, vous savez bien, ces gens assistés, dont on fait un peu par pitié, par commisération des postiers ou des aides-soignantes. Ah, tout d'un coup, on découvre que ces gens ont aussi des Aimé Césaire, des écrivains, et puis qu'ils ont une certaine dignité et qu'ils sont capables de relever la tête. Le diable se cache parfois dans les détails.
Fèm pa votis kop mwen pou sa monte. Lam de pou vite dwat la pa wè anye. La Mayotte, la Mayotte, la Mayotte. Mwen pa wè anye. La Mayotte, la Mayotte, la Mayotte. Mwen pa wè anye. La Mayotte.
Le visa qui est installé en 1995 est un mur de Berlin érigé entre Mayotte et le reste des îles Comores.
Donc nous considérons l'expulsion des Comoriens qui sont à Mayotte, c'est épuration ethnique complètement.
La France, celui qui décide tout ici, il ne faut pas se cacher les rideaux. La France, s'il faisait un état de droit aux Comores, le lendemain, on le voit.
Vous voulez vivre comme à Mayotte avec la France?
Vous voulez
vivre comme les Maoris?
La Mayotte. La Mayotte, la Mayotte, mwen pa wè anye. La Mayotte, la Mayotte, mwen la Mayotte, mwen pa wè anye. La Mayotte, mwen la Mayotte, mwen la Mayotte, mwen pa wè anye.
Ou mwen la jen, mwen pa ban wè anye.
C'est un truc qui rêve ça, si je me trompe. C'est pas un truc un peu recyclé.
un peu recyclé, un peu repeint, juste un truc un petit peu repeint. Mais j'y connais rien, après tout, en bateau.
Ben c'est vrai que là, par exemple, sous le canot de sauvetage, on voit des traces de rouille, quoi. Donc ça fait pas très neuf.
Ouais. Je sais pas si c'est pas un truc qui aurait été repeint. Mais bon.
En tout cas, le bateau qui fait la liaison entre les îles Comoriennes dans l'océan Indien est immatriculé avec un drapeau dans les Caraïbes. Un pavillon de complaisance.
Alors le Maria Galanta a amené 175 passagers avec environ 50 passagers réguliers en bonne et due forme. Les autres, c'est des départs volontaires, c'est-à-dire des sans-papiers.
Des sans-papiers qui partent volontairement.
Oui, qui partent volontairement. Bon, moi, je ne vois pas vraiment la différence entre départ volontaire, la façon dont on les traite déjà à l'arrivée, parce que ce n'est pas le même accueil déjà.
Disons qu'ils n'ont pas été accueillis à bras ouverts.
Ah ben ça, c'est sûr. Bon, de toute façon, on a vu.
Ça veut dire que ce bateau va servir à ramener les clandestins, quoi.
Hein? Ça, c'est clair. Moi, je viens tout de suite de discuter avec un gendarme qui me disait que, de toute façon, eux, ils savent que il arrivera justement un moment où ce bateau n'amènera que des clandestins.
Avec le petit bateau prison.
Voilà. Et en plus, il est bien fermé, tu vois.
Oui, absolument. Jailboat, tu peux pas sauter, tu seras à l'intérieur.
Tu seras à l'intérieur, bien enfermé. Voilà. Je ne sais pas, on va vérifier si ces vitres-là ne sont pas blindées déjà.
Pour des touristes, c'est pas un bateau très sympa, quoi.
Alors voilà, c'est un des dispositifs pour reconduire à la frontière ces Comoriens qui inlassablement viennent vers Mayotte pour toutes les raisons qu'on a indiquées au cours des reportages de la semaine dernière. Mais la raison principale, évidemment, elle est la différence de niveau de vie. Mais il y en a bien d'autres dont on l'a répété, les liens sociaux, les liens culturels anciens, familiaux, etc., qui font que la coupure entre l'île de Mayotte et le reste des Comores, depuis 1975, reste quelque chose d'insoluble, une question absolument insoluble. Il est très difficile, voire impossible de demander aux Mahorais d'aujourd'hui, soutenus par les subsides français, de revenir au sein des Comores, puisque les Comores sont si pauvres. C'est très difficile de leur demander ça, et c'est très difficile de demander aux Comoriens de ne pas vouloir vivre moins mal. C'est impossible de demander ça à des hommes, à des femmes, quels qu'ils soient, où que ce soit sur cette planète, on le sait depuis très très longtemps. Néanmoins, bon, puisqu'il y a des consignes, eh bien, on fait de la reconduite à la frontière. Alors, on déploie tout un tas d'arrêtés, de lois, de dispositifs, de police, etc. Et là, comme le retour en avion est un peu coûteux, eh ben, on a installé ce bateau, cette ligne qui est inaugurée aujourd'hui en grande pompe. C'est pas des très grandes pompes, c'est des pompes parce qu'il faut bien, mais on sent quand même que personne n'est dupe. Voyons ce que nous dit le capitaine du Maria Galanta, le capitaine Patrick Moilic.
Ben aujourd'hui, on vient d'assurer la première liaison entre Mayotte et Anjouan. On a mis 3 heures à faire Dzaoudzi, Mutsamoudou. Voilà, les conditions de mer étaient très bonnes, pas de mauvais temps, donc on peut faire moins, mais pour les premières fois, on va mettre 3 heures.
Quelle va être la vocation de ce bateau ?
Ben, la vocation du bateau, la première vocation déjà, c'est d'assurer une liaison entre Mayotte et Anjouan, avec possibilité de faire les autres îles plus tard.
Alors, aussi, vous avez pour vocation de ramener les clandestins ?
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais, c'est pas une vocation. Il y a un problème de clandestins à Mayotte. Le Maria Galanta n'est pas un bateau qui a été mis ici pour faire ça. Il a été mis pour assurer une liaison entre les îles Comoriennes et Mayotte. Et effectivement, nous prendrons des illégaux que nous ramènerons ici prochainement.
Vous avez un moyen de les contenir à l'intérieur du navire ?
Je vois des...
Non, ça...
Ça ressemble à des barreaux de prison, là, votre bateau.
Ouais, regardez derrière vous.
Bien sûr.
On dirait, moi j'ai l'impression de monter dans une prison.
Vous allez monter avec moi, vous allez voir.
Oui, on va visiter. Allez, on monte à bord, on essaie de pas tomber dans la flotte.
Le bateau n'est pas neuf. Le bateau a travaillé aux Antilles dans les années 90, ensuite à Saint-Pierre-et-Miquelon, et il arrive dans l'océan Indien.
Alors, vous nous assurez, vous, que concernant le retour des illégaux, il n'y a pas de contrat particulier entre l'armateur et les autorités françaises ?
Pas pour l'instant.
Mais c'est une possibilité.
Le Maria Galantra sera amené à ramener sur Anjouan des passagers, enfin des clandestins. Il y aura des passagers légaux et des passagers illégaux. Voilà.
Parce que là, on nous disait...
Parce qu'actuellement, les illégaux qui étaient sur Mayotte étaient ramenés par avion. Qui coûte un petit peu plus cher, oui.
Elle est fâchée de quoi, la dame?
Elle est fâchée parce qu'on expulse les Comoriens dans leur propre terre Mayotte pour les envoyer à Anjouan.
Et vous, vous en pensez quoi?
Je suis de son avis. Je suis absolument de son avis parce que Mayotte et Comoriennes, ça fait 150 ans qu'on est ensemble. Et même le sultan d'Anjouan qui était ici, c'était aussi le sultan qui avait placé son fils là-bas à Mayotte.
Vous, vous êtes ce qu'on appelle un unioniste.
Un unioniste, exactement, monsieur. Un unioniste. Ils ne sont pas des clandestins. Les Comoriens qui sont à Mayotte ne sont pas des clandestins. Et si la France veut prendre Mayotte, Mayotte seulement, pourquoi aussi ne pas prendre aussi les autres îles? Est-ce qu'on n'est pas d'accord d'être pris aussi par la France? Comment la France s'engage? Ils sont tous d'accord. Ah oui. Et puis encore plus.
Tous. C'est tous, pas tous. Tous.
Mais vous savez, j'ai un frère là-bas, un frère à Mayotte. Nous sommes tous mélangés, nous sommes tous de la même race, de la même religion, de même...
Alors si tous les Comoriens redevenaient français, là vous êtes d'accord?
Ah bon, d'accord, si c'est possible, mais d'ailleurs, il peut nous assister. Il peut seulement nous assister sans nous donner la nationalité.
Vous voulez être recolonisé par la France?
Non, c'est pas recolonisation, on a pris l'indépendance, bêtement, on a pris l'indépendance unilatérale. Mais on est indépendant, on ne peut pas faire autrement. Mais quand même, du moment que la communauté internationale reconnaît que Mayotte fait partie intégrante des Comores, alors il ne fallait pas qu'on nous ampute encore ce petite colonie-là, dans le but de comment de garder toujours Mayotte, quoi.
Mais quelle est la solution alors aujourd'hui?
La solution, c'est au moins laisser la libre circulation des personnes dans le libre, même en les surveillant, même en leur donnant comment un moyen de comment de visa, puis, mais ne pas empêcher comment les Comoriens de
la population. Vous voulez libre circulation?
Libre circulation des biens des personnes. Vous savez ce qui s'est passé, le visa Balladur, ce qu'il a fait comme personnes qui sont mortes là, avec quoi ça là. Si vous demandez, n'importe quelle personne ici, vous demandez, ici tout le monde a perdu comment un parent qui allait partir à Mayotte. Donc nous considérons l'expulsion des Comoriens qui sont à Mayotte, c'est épuration ethnique complètement.
Et quel rapport avec le bateau?
Le rapport, on nous a dit que ce bateau va ramener tous les Comoriens là-bas, ils vont les embarquer. Si puis les Comoriens ne sont pas comment contents.
Mais on nous a dit que c'était des touristes qui étaient dans le bateau.
Ah
là.
Bon, des touristes, c'est des touristes, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas, Dallo?
Oui. Il faut dire qu'on est entouré par une centaine de personnes. Et ils demandent l'acquiescement des gens autour. Là, à bord, là, aujourd'hui, il y avait des sans-papiers... Retour volontaire.
Volontaire. Si c'est volontaire, d'accord. Mais il ne faut pas les obliger. Il ne faut pas les obliger à rentrer. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire ici? Déjà, la situation ici est catastrophique.
Mais vous deviez nous chanter une chanson.
Ah oui, parce qu'il y a une chanson qui devrait être un hymne national.
Alors allons-y.
L'hymne national. Oh. Komori, Masiwamane, Gazijanaimu Ali. Maore, Nanzuani, Komori, Zawa Komori. Allons, va
chanter.
Komori, Matsiwa Mane, Gazija Naimuali. Maore, Nanzuani, Komori, Zawa Komori. C'est-à-dire que le Comore forme un ensemble de quatre îles. Grande Comore, Moéli, Mayotte et Anjouan. Les Comores appartiennent aux Comoriens.
Huh?
Et ça, c'est l'endroit le plus agréable du village parce que il y a un grand, grand manguier très haut. Et en dessous, il y a une sorte de citerne un peu en forme de lavoir qui est juste devant la mosquée. Là, je suis juste devant la mosquée. Il y a de l'eau dans cette citerne et avec des gamelles tout autour. Et on s'en sert pour faire des ablutions avant de rentrer dans la mosquée. C'est-à-dire qu'on se purifie, on se lave le corps, les mains, les pieds. On se rafraîchit et ensuite on rentre dans la mosquée. Et c'est tout à fait comme autrefois à Paris ou dans les banlieues où le dimanche matin on allait aux douches municipales. Et après, on allait à la messe, ou l'un ou l'autre. Mais enfin, c'est un peu les mêmes fonctions.
On est à Sadaponi, à l'extrême sud de New Makele.
C'est-à-dire, on est au sud d'Anjouan. Et d'ici là, en arrivant, on aperçoit Mayotte.
Hein. Ouais, on aperçoit les trois autres îles des Comores, c'est-à-dire Mayotte, Moéli et la Grande Comore.
Et c'est d'ici que partent beaucoup de gens.
Ah oui, c'est ici que partent beaucoup de gens, oui, sur la plage qui est juste en dessous du village, la plage qu'on appelle Chirouroni.
Et là, il y a des départs quotidiens
Quasi quotidiens, oui.
Alors voilà les deux pilotes qui vont partir. Omar, c'est le grand, c'est ça?
Voilà. Et toi? Monsieur Enfane.
D'accord. Enfane et Omar sont en bateau. vont prendre le bateau. Donc, tous les deux, vous êtes des pilotes?
Oui, nous sommes des pilotes.
Alors, depuis quand tu fais ça?
Juste, ça fait plus de 3 ans comme ça.
Et tu fais combien de voyages par jour, par semaine?
3 voyages par semaine.
Et il y a combien de pilotes?
2 pilotes.
Et pourquoi 2?
Parce que là-bas, puisque nous sommes en mer, il fallait quand même que si l'autre est tombé malade, le deuxième pourra piloter le bateau jusqu'à...
D'accord. Il y a toujours 2 pilotes.
Toujours comme d'habitude, 2 pilotes.
Et combien tu touches là-dessus? Combien tu gagnes?
Nous deux. Uh-huh. Quelque chose comme 200 000.
Entre nous, 400 bon, euros. Nous deux, c'est 400 euros.
200 euros chacun.
200, voilà.
200 euros chacun, c'est pas mal, non?
Oui, c'est pas mal. Quand nous sommes de retour ici.
Ah, d'accord, si tu reviens pas, t'as pas l'argent.
T'as pas l'argent. Si on est attaqué là-bas, ou bien si on est en mer jusqu'à... Non, on ne tue rien.
T'as déjà été attaqué, justement?
Non, c'est mon
lui,
frère.
Lui, il a déjà été attaqué?
Oui.
Attaqué par qui?
Par la douane de Mayotte. La PAF, aussi.
Ah,
je retourne.
4 fois.
Vous voulez, je vous fais visiter un peu?
Ouais, attends. Alors déjà, lieutenant, expliquez-moi, pour commencer.
Ouais, je vous explique. On est sur la Kungé, une des 2 vedettes de la police aux frontières. Une vedette qui a été fabriquée spécialement pour la police aux frontières à Mayotte. Ben, sa mission, c'est de patrouiller en mer toutes les nuits pour à la fois lutter contre l'immigration clandestine et dans le même temps porter secours aux gens dans la mesure où les Kwasa Kwasa sont des embarcations pas du tout étudiées pour faire la traversée entre Anjouan et Mayotte. Et donc les passeurs font courir des risques aux passagers. Ils sont surchargés. Ça varie entre 20 et 45 personnes plus des animaux. Donc c'est vraiment des embarcations qui sont en danger dès qu'elles prennent la mer. D'ailleurs, la procédure est qualifiée par le parquet des 2 façons, mise en danger de la vie d'autrui et aide à l'immigration clandestine.
Ça, c'est ce que risquent les passeurs s'ils sont arrêtés?
Les passeurs seront poursuivis pour ces faits. À la fois le fait d'avoir aidé des gens à immigrer à Mayotte, et à la fois le fait de les avoir mis en danger, puisque comme je vous ai dit, elles sont surchargées, il y a énormément d'essence à bord, elles ne sont pas faites pour ça, et en plus, il n'y a pas de matériel de sécurité, il n'y a pas d'instrument de navigation, pas de feu de détresse, de fusée de détresse, de... Là, on ne va pas être bon.
Sylvain, tu peux venir à bord?
Voilà, alors maintenant on va passer dans les 2 camps. Vous avez compris qu'on est passé du côté du camp des gendarmes. Avant on était du côté du camp des voleurs, disons des chats si vous voulez, et des souris, dans une absurdité totale. Et ça, s'il y a une chose dont tous les acteurs de cette histoire sont absolument persuadés, c'est bien de la situation absurde. Et bien sûr, ça on vous le dira off. officiellement le lieutenant Alain Ballerini, Alain Ballerini de la police aux frontières, la PAF de Mayotte à bord de la Kungé. C'est une des deux vedettes chargées des patrouilles dans les eaux territoriales mahoraises, fait son travail de lieutenant de la police de l'air et des frontières, avec, comme très souvent bien sûr, dans la police et les forces de l'ordre, cette double casquette à la fois de protection et de répression. Voilà, on est à bord, on y va.
Alors, comment va se dérouler la mission ce soir? On va partir vers le nord, avec une carte, vous allez mieux comprendre.
Ouais, on va sortir la carte.
Voilà.
On voit très clairement l'espèce de forme d'hippocampe.
De l'île de Mayotte, on voit en jouant. Hein.
Ouais, donc, en haut à gauche.
64 km, 35 000.
C'est rien?
Non, pas grand chose. Donc on va partir d'ici.
On est à Petite Terre là.
On est à Petite Terre. On va à l'intérieur du lagon aller jusqu'à la passe Choisil et aller, si la mer le permet, le plus au loin possible dans cette zone-là, en limite des eaux territoriales.
Là, ils partent d'où?
En général du sud, hein, de cette partie-là. Voilà. Donc ils partent et puis après, ils ont des trajectoires un peu au petit bonheur la chance. On a eu un qui nous a raconté ça. Ils ont fait une trajectoire quasiment sud avant de...
De remonter par le nord. C'est un gros détour.
Une grosse boucle, ouais. Je crois qu'ils avaient fait 14 heures ou 16 heures de mer. Hein.
Alors qu'à Vol d'Azur, c'est 70 km. Alors quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre l'immigration clandestine entre Mayotte et Anjouan?
Il y a ce bateau, on a une deuxième vedette qui pour le moment est en réparation, on en attend deux autres, et sinon on travaille en collaboration avec d'autres services de l'État, la gendarmerie nationale, la gendarmerie maritime, la vedette des douanes et la marine nationale.
Mais tout le monde n'est pas en train de patrouiller en même temps.
Nous on est là tous les soirs, toutes les nuits, et sinon il y a un radar à terre qui nous couvre une partie du secteur. Il y a une zone qui est couverte, je ne vous dirai pas laquelle. Et bon, le reste, ben, c'est à nous à faire preuve d'initiative, à faire preuve de technique. Et à nous, après, en fonction des indications du radar, d'aller voir de visu ce qui se passe.
Voilà, alors donc, voilà, les gendarmes se préparent. C'est un long parcours. Hein. Ça, on part à la tombée de la nuit, vers on se prépare à 17h et puis on prépare. Et puis ça dure comme ça jusqu'à il y a une dizaine d'heures de patrouille de nuit à la recherche de ces bateaux, ces petits bateaux clandestins. Alors voilà, ben, on est de l'autre côté, du côté des clandestins maintenant, à Chiroroni, à Anjouan, sur la grève, d'où vont partir ces clandestins. Alors qui va partir là tout à l'heure?
Voilà, celui-là il part.
Ah, lui l'habillé beau. Donc il part. Bonjour.
Je viens de la Grande Comore et je vais à Mayotte parce que c'est la misère aux Comores.
C'est la première fois?
C'est la première fois que je vais à Mayotte.
Combien tu as payé pour la traversée?
25 000 francs. 100 euros.
C'est ça le prix de la traversée, hein, chef. C'est 100 euros. Comment tu as fait pour avoir les 100 euros? Parce que c'est pas facile de faire 100 euros.
J'ai vendu une chèvre pour pouvoir payer le billet. J'ai vendu deux.
Deux chèvres, ça fait 100 euros.
100 euros.
Oui. Ah ouais. Et puis tu t'es habillé beau, hein? On dirait à la télé. Pourquoi tu t'es habillé beau comme ça?
Il est obligé de s'habiller comme ça parce que s'il ne s'habille pas comme ça, en débarquant là-bas, tout de suite on le reconnaîtra que celui-là, il est étranger, il vient d'arriver.
Et tu as de la famille là-bas à Mayotte?
Oui, j'ai de la famille à Mayotte.
Bon, t'as peur un peu de la traversée ou tu fais confiance?
J'y crois parce que d'ailleurs je suis croyant, je crois à Dieu et qu'il faut que je vis de toute façon.
Inch'Allah. Ta famille, ils savent que tu pars?
Personne n'a su que je pars aujourd'hui.
Ah, tu l'as dit à personne? Pourquoi?
Bon, c'est normal parce qu'après ils ne vont pas me laisser partir.
T'as quel âge?
18 ans.
18 ans.
Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas, alors? Qu'est-ce que tu espères faire là-bas à Mayotte?
Pour le moment, je n'ai aucune idée. Mais c'est dès que je serai là-bas que je saurai exactement ce que je vais faire.
Qu'est-ce que tu as avec toi? Qu'est-ce que tu emportes avec toi?
Ça vient garder.
Rien. Tu as de l'argent un peu?
Non, il n'y a pas de taxi. J'ai juste 2 euros pour payer le taxi.
Bon, il part. Il part. Il va partir. Alors, c'est le moment de partir.
Il n'est pas tranquille.
Mais d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais.
Donc on a deux.
Hein?
Comme tu veux.
Voilà, et on part.
Un local qu'on appelle la prison.
Oui, c'est la cale avant, quoi.
Voilà, la cale avant. Voilà, qui est sous alarme. Pourquoi il m'a mis l'alarme en prison?
C'est ici, si on intercepte des clandestins.
On va les réporter ici et derrière.
On en met combien là-dedans, là?
Ben, le moins possible, parce qu'ils sont mieux à l'arrière, quand même. Mais bon, ça dépend du nombre qu'il y en a, quoi. Il faut qu'on arrive à répartir.
J'imagine que ça dépend dans quel état ils sont aussi, parce qu'ils peuvent être plus
ça
ou moins nerveux.
L'état, voilà. Non. En général, on n'a jamais eu de problème de nervosité à bord. Ils sont assez tendus avant qu'on les intercepte. Par contre, après qu'on les ait interceptés, on va dire que c'est le fatalisme africain. Bon, je suis pris. Donc, en général, à l'avant, on essaie plutôt de mettre les femmes, les enfants. Parce que, bon, ils ont fait plusieurs heures de mer. Ils sont mouillés. Bon, ils n'ont pas forcément chaud. Donc, à l'avant, plutôt les femmes. Les passeurs, parce qu'ils peuvent, eux, présenter un danger, mais bon, a priori, il n'y en a pas. Et après, le reste des passagers, on les met à l'arrière.
Voilà, à quoi sert cette vedette ultra rapide, conçue spécialement pour cette tâche, avec ces hommes à bord, dont le boulot, c'est ça, c'est de reconduire, scruter dans la nuit ces gens, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui essayent de joindre Mayotte, de rejoindre Mayotte pour vivre moins mal, pour faire la vie, comme on dit. Vous avez remarqué cette expression qui revient. On va à Mayotte pour faire la vie. Et alors, on a vu les passeurs, on a parlé de Jimmy, le passeur, vous vous souvenez? Et là, il y a les pilotes aussi. Hein. Les passeurs, c'est ceux qui restent sur le rivage et qui organisent un petit peu tout ça et qui se ramassent de l'argent et qui prennent des risques. Enfin, c'est des entrepreneurs, quoi. Et puis, il y a ceux qui font vraiment le boulot, qui sont à bord et qui pilotent ces fragiles embarcations, ces coques de noix, avec 2 moteurs à bord. Et puis, on nous l'a dit et répété, de 15 à 30, 40, 45 personnes sur ces barques qui mesurent 7 mètres, 9 mètres. Enfin, c'est quelque chose d'invraisemblable. Sur la plage de Chiroroni, prêt à partir, rencontre avec des pilotes et stratégie des pilotes.
T'as prison, mon fond, là.
Non, ils m'ont envoyé en prison.
Combien de temps?
J'ai déjà pris 2 ans en prison.
Ah, t'as passé 2 ans en prison, où ça?
Majkavo, ça c'est le centre pénitentiaire de Mayotte.
De Mayotte. Qu'est-ce qu'ils t'ont reproché au juste?
J'ai amené un kwasa-kwasa et puis je suis rentré à Mayotte d'une manière illégale.
Et t'étais récidiviste, c'était la deuxième fois?
C'était la première fois que j'avais pris ça, mais bon, j'avais pris 2 ans. Mais on m'a attrapé une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. À chaque fois, je me cachais, c'était toujours un copain qui prenait les peines.
Comment tu peux faire qu'un copain prenne les peines?
C'est fait qu'il y a un passager qui a été passé à 4 ans, on a mis un bio. Il s'est gagné le passager. Le commandant, moi, Jacques Banga, a suivi 4 machines zombies, il s'est bien de commandant au Kiwa.
C'est-à-dire que ça, c'est une attente qu'on fait ici avant de partir. C'est-à-dire quand on voit la PAF venir, moi, je me mélange avec les passagers. Et puis c'est un autre qui prend les 2 machines et il s'affiche comme il est le pilote.
Comme ça,
moi, on m'expulse et là, je peux continuer le travail.
Et lui ?
Elle me sait dès demain, monsieur Harold, quand vous avez le nous sommes c'est demain, pas bêtis, c'est d'être dans Shanguine.
Oui, ça, ça fait partie des risques. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner après sa part attendue avant le départ, quoi. Parce que, bon, moi, je suis payé, par exemple, 200 euros. Il reçoit aussi 200 euros après, quand il sera libéré.
Et il est libéré au bout de combien de temps ?
Il y a une...
Normalement, quand on t'inculpe pour 2 ans, tu fais 16 mois et puis on te libère.
Donc, celui qui te remplace quand la PAF arrive, celui qui prend le moteur, il se prend en même temps 16 mois, quoi.
Mm-hmm. Mais alors, du coup, en ce moment, il y a combien de personnes qui sont dans des prisons françaises à ta place ?
Voilà.
3. 3. Alors, tu t'occupes de 3 familles ?
C'est-à-dire que moi, je prends juste les 200 euros, je donne à leur famille et puis basta.
Voilà, c'est fini. Ça. Ouais, d'accord.
Tu l'as toujours à midi, là ? J'ai un gros pied à droite. Est-ce que tu l'as toujours à midi, non ? Toujours à midi.
Alors, lieutenant, expliquez-moi. La nuit est presque tombée, c'est crépuscule. On est sorti du lagon, on est au nord de Mayotte.
Tout à fait. Bon, vous avez vu tout à l'heure, il y a une barque qui a été repérée, on est allé voir ce qui se passait, donc c'est un pêcheur qui vaquait tranquillement à ses occupations. Bon, là, au radar, à la fois terrestre et embarqué, on a un écho suspect, donc on se rapproche, et si ça se confirme que c'est une embarcation, on va voir si c'est un pêcheur en train de rentrer chez lui ou... Un poisson en train de venir sur Mayotte.
Et là, maintenant que la nuit tombe, ça va être ça pendant toute une partie de la soirée jusqu'à tard. Je m'accroche parce que ça se coupe. Ça va être comme ça, le chat et la souris jusqu'à tard dans la nuit.
Ça va être, oui, un peu le chat et la souris, pour prendre votre expression. On va aller sur tout ce que notre radar ou le radar à terre va nous indiquer comme renseignement. Et sinon, on va se mettre, tout faisait temps, on se met à la dérive et puis... On attend, on bouge.
Quelles sont vos statistiques à vous, vos chiffres à vous ? Est-ce qu'on en attrape toutes les nuits ? Est-ce qu'il y a des...
Au jour d'aujourd'hui, on est à 51 poissons, toute administration confondue, ce qui a fait un par semaine.
Ouais.
Nous, la PAF, on en est à 36. Par contre, je ne peux pas vous dire combien il y en a qui sont arrivés. On n'a pas de statistiques.
Ah, ouais, mais a priori, avec votre expérience, s'il y en a un par semaine arrêté, s'il y en a combien qui passent ?
Je ne peux pas vous dire. Il y en a peut-être 2 par jour, il y en a peut-être 3 par jour, il y a peut-être certains jours où il n'y en a pas qui part. C'est impossible à dire actuellement.
Oui, il y en a quelques jours en vue, mais très loin. Toujours à midi. Reçu.
J'ai un truc à droite.
Ah ouais, j'ai vu. Tu l'as toujours à midi, là ?
J'ai un gros pied à droite.
Est-ce que tu l'as toujours à midi, non ?
Allume-le, là. Allume-le.
On allume la torche et on voit apparaître un bateau.
Pas sur le 12, je fais contact. Pas sur le 12, Anna. Enculé.
Ah. Ça y est, je suis trempé.
Oh, la salope.
C'est la bonne douche, là.
Bambo de Foxtrot Golf. On nous a amené sur toi, Georges. On nous a amenés sur toi, t'avais pas de lumière, rien. On savait pas qui c'était. T'as plus de lumière ?
Ah oui, j'ai oublié.
Et la radio ? D'accord, ok. Pas de paix. Bon, on renseigne, c'est bon. Ciao. Merci pour la blague.
Celui-là, il a pas pu partir.
Il n'a pas eu la place. Oh.
Toi, tu n'as pas pu partir. Il y a 25 personnes et ils ont refusé que je monte moi aussi parce qu'ils trouvent déjà qu'ils sont trop nombreux.
Ils en ont mis 25 ?
Oui. Ouais, ils en ont mis 25.
Alors, tu t'étais habillé impeccable là pour la traversée, avec la casquette Dubaï, le t-shirt Coca-Cola.
Et le short du Bayern de Munich.
tout ce qu'il faut.
Parce qu'il n'y a pas de problème, mais tu dis à
moi. Ah, moi j'ai l'habitude d'y aller là-bas, donc...
Ah, tu y vas souvent, toi ?
Ça, c'est ouais. Pour quand on arrive là-bas, pour pas se faire repérer par les autorités françaises. Faut avoir l'air bien habillé.
Alors, qui va partir encore? Toi, tu voulais partir? Viens nous parler là. Et il avait un sac plastique, il a un sac plastique avec ses affaires dedans. Alors quoi, t'es déçu, t'as pas pu partir?
Je
suis vraiment déçu parce que je viens de loin et j'ai pas pu partir aujourd'hui, donc je suis obligé de retourner encore.
D'où tu viens?
Je viens de Koni, ça c'est au moins 40 km d'ici.
Donc là maintenant tu vas rentrer chez toi?
Il faut que je retourne.
C'est la première fois que tu essayais de partir?
Ah oui, c'est une autre.
Ah, moi non, c'est la quatrième fois.
Quatrième fois. Et comment t'es revenu à chaque fois? T'as été renvoyé?
J'étais pris par les flics. Je suis renvoyé, je suis revenu ici, mais toujours la vie est de plus en plus dure. Là, c'est pourquoi je vais repartir.
Je
ne suis pas sûr de pouvoir revenir ici demain parce que je ne sais pas si j'aurai de l'argent pour revenir prendre ce bateau.
Bon, là il est quoi? Il est 3h du mat.
3h30.
J'ai repris les couleurs.
Ah bah oui. Et le micro?
Bon, ce soir c'était chou blanc.
Bah oui.
Mais vous serez là encore demain soir?
Ah, demain on recommence. Demain on recommence.
Il y a un côté mythe de Sisyphe là. Ça va reprendre éternellement.
Bah éternellement, j'espère.
En attendant des renforts, c'est ça?
Ah ouais, les deux vedettes c'est acquis. Le personnel, bon, on va voir combien on va avoir de personnel et on va voir combien on peut faire de patrouilles par jour.
Et vous m'avez parlé de cette caméra thermique?
Ouais.
Pour pouvoir bosser la nuit.
Voilà, ça doit arriver aussi.
Et alors, en attendant, donc, la plupart des reconduites, la plupart des clandestins qui sont arrêtés, c'est ici, sur le sol de Mayotte. Là, on est revenu sur la terre ferme.
Voilà. Elle n'est pas tout à fait ferme, c'est important.
Ouais.
Mais oui, la plupart des clandestins interpellés, c'est sur la terre ferme.
Alors, un mot, justement, sur les reconduites à la frontière. C'est combien ça coûte de
les ramener? Combien ça coûte de les interpeller, de les ramener? La lutte contre l'immigration, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, point de vue reconduite par avion, ça fait 7 200 € par jour.
Par jour?
Ouais. 5 jours par semaine.
Voilà, il ne faut pas se cacher les rideaux. On n'a pas le cul sorti des ronces. Merci à tous. Merci au lieutenant Balrini de la PAF, police aux frontières, et à ses coéquipiers. C'était un reportage avec Guy Van Cotil. Merci à Aboulatif Mohamed, à Patrick Moélic, à Mamsour, à Rémi Carayol, Nassouf Djelani de Kashkazi, le journal Kashkazi, www.kashkazi.com. Merci à Isabelle et Ahmed Mohamed. Traduction Kamal Ali Yehouda. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission La Balle si j'y suis. Technique aujourd'hui, Lidvine Caron et Ludovic Asselot. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet et Raphaël Moutea qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assiste de Pascal Le, Pascal Riello et de Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.